Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h47, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon.
Oui, bonjour Guillaume Larrivé. Une semaine après l'attentat contre la policière de Rambouillet, le gouvernement présente ce matin au Conseil des ministres une loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Alors, mesure principale, c'est la surveillance d'Internet, des algorithmes. Guillaume Larrivé, vous travaillez beaucoup sur toutes ces questions de sécurité, de terrorisme. Est-ce que ça va vraiment permettre d'avancer, ça?
Alors d'abord, je voudrais dire que ce projet de loi qui va être présenté ce matin, il n'a pas été improvisé dans les derniers jours, juste à la suite de cet horrible égorgement de cette fonctionnaire du commissariat de Rambouillet. C'est un travail de longue haleine, très technique, qui est engagé depuis en été plusieurs années. Je le dis, moi je suis député d'opposition, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais c'est un texte technique.
Oui, c'est pas parce qu'elle a été poignardée, voilà, en fait, autre jour, et tuée, la policière.
C'est un texte technique. Alors, pour expliquer aux auditeurs ce qu'il y a dedans, la question des algorithmes, c'est assez simple au fond. Lorsque vous et moi, on va sur Facebook, lorsqu'on fait une recherche sur Google, lorsqu'on va acheter sur telle ou telle plateforme un bouquin ou quelque chose, on est en réalité l'objet d'un suivi par des techniques algorithmiques.
Ah bah, on le voit, bien sûr, la publicité qui nous suit, etc.
Bien sûr. Bon, moi je pense qu'il n'est pas du tout anormal que la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, dispose aussi d'un outil, qu'on appelle donc l'algorithme, pour détecter certains mouvements, certaines connexions. C'est pas un instrument de surveillance de masse, c'est un instrument de détection. Alors, les algorithmes existent déjà dans la loi, depuis 2015. On avait voté déjà un mécanisme d'algorithme qui s'applique en fait à des données téléphoniques. Et ce que nous voulons là, conformément d'ailleurs à des propositions que j'ai faites avec deux autres députés qui s'appellent Jean-Michel Miss et Loïc Hervran en juin 2020 à l'Assemblée, ce qu'on propose, c'est d'étendre ces algorithmes aux URL, c'est-à-dire au www.quelquechose.com/quelquechose, c'est-à-dire pour détecter par exemple l'individu qui va se connecter 4 ou 5 fois à des sites djihadistes, ce genre de choses. Bon. Si l'algorithme le détecte, ça envoie un hit, c'est-à-dire un signal aux services de renseignement qui ensuite, pour identifier individuellement la personne, demanderont l'autorisation au Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Si je vous dis ça, c'est pour dire que c'est un dispositif cadré. Contrairement à ce que je lis, il y a certaines associations
qui disent... Oui, en disant, il va y avoir, restrictions de liberté, surveillance, bien sûr, à travers des algorithmes.
C'est quelque chose de profondément équilibré.
C'est un peu vrai, surveillance avec les algorithmes.
C'est moins de la surveillance que de la détection, encore une fois, ce qui va être ciblé sur des individus ayant été un potentiel de dangerosité. Et tout ça est très encadré, avec des services de renseignement dont je veux dire à votre antenne, Patrick Roger, qui méritent notre respect, notre reconnaissance. Il faut arrêter cette espèce de fantasme qui consisterait à penser que les agents de renseignement sont là pour détruire nos libertés. Non, c'est des consultants, des fonctionnaires, des agents qui sont là pour nous protéger, qui le font de manière sérieuse. Vous n'avez pas des gens qui ont envie de fliquer, pardonnez-moi, les honnêtes citoyens. C'est pas ça le sujet. On a des services très professionnels qui ont d'ailleurs été bien renforcés, je dirais, dans les 10 dernières années. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a fait une vraie réforme des services de renseignement et de la communauté du renseignement à l'été 2008.
Attendez. Guillaume Larrivé, d'accord. Moi, je veux bien. Je vous écoute, là, effectivement, détailler tout ça, ce projet. C'est parfait sur le papier. Enfin, parfait, en tout cas. Ça va sans doute dans le bon sens. Sauf que ça fait maintenant des années que, justement, énormément de terroristes sont passés à l'acte et ont échappé, justement, à tous ces services de renseignement. La semaine dernière encore. Et beaucoup d'autres. Je reviendrai sur Harpon, sur... etc. Donc, alors, là, il y a quand même un problème. Le Tchétchène qui a assassiné Samuel Paty. Alors, pourquoi? C'est qu'on n'est pas au point, c'est qu'on est dépassé, c'est qu'on a un temps de retard.
Patrick Roger, je ne vous dis pas, ça serait faux, prétentieux, et ça serait même stupide, que le système des forces de sécurité, le système de renseignement, permet de détecter toutes les menaces. C'est faux. Je n'oublie pas, hélas, et vous le savez, que depuis 2012, 271 de nos compatriotes ont été tués par des terroristes islamistes. Bon. Je n'oublie pas non plus que certaines attaques, certains attentats, par dizaines ont été évités grâce aux services de renseignement. Et puis surtout, ce que je veux dire, c'est que ces outils de renseignement, ça n'est pas le seul dispositif nécessaire de la lutte antiterroriste. Il y a plein d'autres sujets. Il y a évidemment le sujet, par exemple, des sortants de prison.
Alors voilà,
sur lequel,
c'est ça.
Là,
venons-en.
J'ai un désaccord avec le gouvernement
sur ce sujet-là. Venons-en. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, sur les détenus qui sortent de prison, qui étaient radicalisés ou qui ont été incarcérés parce qu'ils avaient commis des actes antiterroristes ou ils allaient passer à l'acte.
Sur la question des terroristes islamistes déjà condamnés, déjà emprisonnés, mais qui vont sortir de prison dans les semaines, dans les mois à venir, je fais depuis plusieurs années des propositions qui sont différentes de ce que le gouvernement actuel propose. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on crée ce que j'appelle un tribunal de sécurité nationale, c'est-à-dire une autorité judiciaire ad hoc, spécialisée, qui serait compétente pour décider de mesures de rétention post-peine de prison. Ça veut dire très concrètement que l'individu djihadiste déjà condamné à une peine de prison, ben il ne sortirait pas de prison dès lors qu'on évaluerait son potentiel de danger. Il serait donc, à la sortie de prison, placé dans un centre de rétention judiciaire fermé. Ça n'est pas possible aujourd'hui, dans les conditions du droit actuel.
Oui, le Conseil constitutionnel avait retoqué La République En Marche, qui voulait adopter en fait des mesures renforçant les mesures de sûreté. Hein,
le justement. Conseil constitutionnel s'était opposé à des dispositions assez voisines de ce que je propose, pas exactement identiques, mais en effet, il y a cette difficulté-là. C'est pour ça que je pense qu'il faudra, par probablement un référendum, adopter une loi. Je l'ai proposé il y a déjà plus d'un an dans le Figaro en faisant un appel au président de la République en disant « Monsieur le Président, soumettez au référendum une loi créant un tribunal de sécurité nationale permettant de décider de mesures d'enfermement, en réalité, de rétention judiciaire. » Voilà. Alors, ce que je dis, je ne veux pas être trop technique et je ne voudrais surtout pas être confus, ce n'est pas de la rétention administrative. C'est-à-dire, ce n'est pas le préfet qui décide d'enfermer. Ce n'est pas ça. Ça serait une autorité judiciaire qui prend une mesure de sûreté. Ce n'est pas une peine, c'est une mesure de sûreté, c'est-à-dire de prévention. Mais concrètement, ça veut dire que l'individu serait encore enfermé. Il faut bien voir qu'on a des bêtes fauves, Patrick Roger, vont être libérées.
Hein. Des bêtes fauves,
mais bien sûr. Bien sûr. On a des individus qui avaient été condamnés à 6-7 ans de prison dans les années 2013-2014, qui sont libérables en 2021, en 2022, et qui sont des bêtes fauves. À la sortie de prison aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaie de les attraper, si j'ose dire, virtuellement, par le renseignement, par des interceptions de sécurité, par la surveillance d'ores et déjà de leurs données de connexion, par éventuellement des dispositifs de balisage, par des suivis divers et variés des services d'enseignement. Ça, c'est fait. Il y a aussi des petites mesures qu'on appelle les MICAS, c'est-à-dire des mesures administratives, un peu de surveillance. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour certaines de ces bêtes fauves, si on n'arrive pas, en réalité, les enfermer via un système de rétention judiciaire, on court un danger qui
alors,
est extrêmement
Xavier Bertrand, par exemple, a dit qu'il faudrait les enfermer encore beaucoup plus longuement.
Oui, alors, il ne m'a pas consulté sur ce sujet, mais je suis à sa disposition sur ce point technique, s'il le veut, mais Xavier Bertrand a proposé un truc qui, à mon avis, n'est pas très opérationnel. Il dit qu'il suffit de les condamner à 50 ans de prison.
Oui, c'est ça.
Quand on dit ça à la radio, tout le monde dit « bah oui, il faudrait... » D'accord. Bon, la vérité, c'est qu'il y a 5 ans déjà, en 2016, j'ai fait voter un amendement qui avait été sous-amendé par Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, pour dire que des criminels terroristes condamnés à la perpétuité peuvent faire l'objet d'une période de sûreté de 30 ans. Ça veut dire, par exemple, qu'un criminel terroriste aujourd'hui qui serait condamné, il n'est pas libérable avant 2051. Ouais. Dans le système de Bertrand, sa proposition, elle s'appliquerait en 2051.
Bon,
donc,
et même techniquement,
ça veut dire que
techniquement, est-ce que ce serait jouable ?
C'est une proposition qui n'est pas applicable avant 30 ans.
Oui. Donc, Guillaume Larrivé, quelqu'un qui a été condamné à 5-6 ans, est-ce qu'on ne va pas le laisser 50 ans en prison, en plus ?
Quelqu'un qui a été déjà condamné à 5-6 ans, C'est ce que je viens de vous dire. Typiquement, un djihadiste qui aurait rejoint les filières dans la zone irako-syrienne dans les années 2012-2013, qui serait revenu et qui a été condamné à 6-7 ans de prison et qui est donc libérable en 21-22. Celui-là, aujourd'hui, il sort de prison. Et c'est précisément ce que je vous dis. Moi, je voudrais qu'il soit en rétention judiciaire de sûreté sur la décision de ce tribunal de sécurité nationale qu'il me semble nécessaire de créer.
Un mot sur la tribune des militaires en retraite publiée dans Valeurs Actuelles. Sur le fond, le constat des signataires sur l'état de délitement d'une France au bord de guerre civile, vous le constatez ou vous estimez que c'est évidemment exagéré ?
J'ai déjà écrit dans un livre et dans des tribunes, la situation actuelle de notre pays n'est plus exactement celle de la paix civile. Donc sur le fond, évidemment, il y a des menaces, il y a des tensions qui sont extrêmement préoccupantes. Sur la forme, en revanche, j'ai trop de respect pour les armées françaises pour accepter que des officiers généraux en retraite et quelques militaires, au fond, soient instrumentalisés dans un combat politique. Je ne leur en veux pas trop à eux. Bon, ils sont pas, je ne suis pas du tout en train de vous dire...
Ils sont instrumentalisés.
Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'ils sont en train de préparer un putsch, ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, j'ai vraiment trouvé tout à fait désagréable et pas du tout conforme à l'intérêt de l'État, à l'intérêt de la France, la position de Marine Le Pen dans cette affaire. J'ai noté que, comme chef de parti, elle a signé un appel aux officiers généraux en leur disant « rejoignez-moi dans ce combat politique ». Non, c'est pas comme ça que doit fonctionner l'État, c'est pas comme ça que doivent fonctionner nos institutions. Je crois d'ailleurs qu'elle a perdu une occasion de se taire, elle a démontré qu'elle n'était pas capable d'assumer les fonctions de chef de l'État et de chef des armées, parce qu'un chef de parti, ça ne doit pas appeler des militaires à s'engager dans un combat politique. Et c'est un fanamili qui vous le dit. Hein. Voilà. Moi, j'ai trop de respect pour les armées pour qu'on les mette comme ça dans une espèce
de jeu polémique ou politicien. Guillaume Larrivé, dernière question avec Cécile Ménibus. Cécile.
Oui, vous aviez fait des propositions à Emmanuel Macron pour le rejoindre. Aujourd'hui, vous êtes sur quelle ligne? Est-ce que vous êtes plutôt du côté Estrosi qui pourrait faire une alliance avec Macron ou plutôt Xavier Bertrand?
C'est pas du tout mon sujet. C'est un homme libre qui vous parle. Voilà. Je suis député depuis déjà quelques années. Je ne roule pour personne. Je n'appartiens à aucune écurie. Je suis membre des Républicains. Je suis même membre du comité stratégique des Républicains. Je me suis fait réélire et je remercie les militants de Lyon, président de ma fédération. Donc je sais où j'habite. Je suis dans ce mouvement-là. Héritier sans doute des gaullistes et puis des libéraux. Donc je suis un homme de droite. Mais je suis un homme libre et je suis pas du tout aujourd'hui dans un positionnement. Je voudrais que les 340 jours et quelques qui nous séparent de l'élection présidentielle soient utiles à la France. On parlera début 2022 de la présidentielle. C'est d'ailleurs un petit signal que j'envoie à tous mes petits camarades, si j'ose dire. Je pense que plutôt que de se regarder le nombril et de parler matin, midi et soir de l'élection présidentielle dans 340 jours, on ferait mieux de faire notre job aujourd'hui, notre job de parlementaire, notre job de patron d'exécutif.
Vous pouvez nous dire si Xavier Bertrand serait un bon candidat, par exemple?
Ah, mais ça, je ne vous le dis pas, parce que je ne le pense pas à ce stade.
Ah, vous ne le pensez pas.
D'accord. Voilà. Ça, c'est réglé.
Bon, ben voilà, c'est dit. Merci,
merci à vous,
Guillaume Larrivé, d'être venu ce matin sur Sud Radio.
Merci. Et dans un instant, le journal de 8h.